Radio Okapi. Okapi. Okapi service avec jeudi Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Merci de nous écouter partout où vous êtes, à travers la République ou chez vous à la maison, dans votre bureau, dans votre voiture, voilà, ou dans un magasin ou ailleurs. Merci d'être branchés sur la fréquence de la paix. Merci à vous tous qui nous écoutez en ligne sur www.radiocapi.net. Comment lutter efficacement contre les érosions? Quelles sont les bonnes stratégies? Professeur Jean-Pierre Ndjibou, vous êtes expert sur les questions de l'environnement et risques naturels. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. On aura également l'ingénieur Guy Bungubeti, PCA de l'ONG Agir Alternatif, qui fait la vulgarisation du vétiver. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler des habitudes à adopter pendant cette période des fortes chaleurs. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert, composé le 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net et laissez un commentaire sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Polydor Bansunga assure la mise en onde de cette émission. Tati Mapoukou est à la coordination et à la réalisation. Micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Les têtes d'érosion menacent plusieurs villes du pays, particulièrement Kinshasa, la capitale, qui compte plus de 300 têtes d'érosion selon l'office des voiries et drainages. Dans certains quartiers de Lemba, Ngaliema et de Mongafula, ici à Kinshasa, les érosions ont déjà englouti plusieurs ouvrages. Les habitations, ponts et routes, les centres de santé, écoles, etc. Les communautés impuissantes assistent à l'avancée de ces érosions qui avalent les infrastructures chaque fois qu'il pleut abondamment. Certains utilisent les sacs de sable pour protéger leur maison, mais cela exige beaucoup plus de moyens. Alors, quels sont les moyens efficaces de lutte contre les érosions? Quel est l'apport du pouvoir public dans cette lutte, etc.? Bien, nous aurons des réponses avec nos invités. Professeur Jean-Pierre Ndjibou, expert sur les questions de l'environnement et risques naturels. Professeur, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Nous avons également en ligne l'ingénieur Michel Ouyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP. Ingénieur Michel Ouyumbu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission. Professeur Jean-Pierre, nous parlons des érosions. D'abord, qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi une érosion et qu'est-ce qui est à la base de cela?
Merci beaucoup pour la question. Je pense que ce que nous devrions donner comme définition très simple, l'érosion est un phénomène de déplacement de matériaux à la surface du sol, et sous l'action de l'eau, ça peut être sous l'action de vent, tout comme ça peut être également sous l'action anthropique, la présence des activités humaines, ou simplement par gravité, tout comme ça peut être une combinaison. Donc c'est tout un processus. Et cette définition permet de comprendre que la Terre est tout un mouvement dynamique. Et parce que c'est un mouvement dynamique, ça signifie qu'il y a des facteurs qui provoquent cette érosion. Et les facteurs le plus important, c'est sont les précipitations, ce sont les pluies. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, le plus important également, c'est sont des caractéristiques de la couverture pédologique, donc les comportements, les caractéristiques des sols. Et le troisième facteur le plus important, ce sont les modes d'utilisation. De quelle manière on utilise le paysage, de quelle manière on utilise ce sol, quel est le type de relief, quelle est la manière dont les choses sont composées, sont constituées. Alors, et ceci permet, quand nous avons le trois processus le plus important, on ne dit pas que c'est l'unique, de comprendre le processus également, parce que l'érosion en question limite suffisamment, comme on dit, et la disponibilité de terres habitables. Hein, ça a des conséquences énormes, certainement, comme vous venez de le consigner un peu plus haut. Et on a une grande quantité de terres au niveau mondial, hein, environ pratiquement estimé à 25 milliards de tonnes de sols qui sont pratiquement érodés régulièrement. D'où l'importance de pouvoir faire de suivi et de surveillance environnementale et de modèles d'études d'environnement régulièrement en tenant compte de cela dans le plan d'aménagement urbain ou dans le plan urbain détaillé ou le plan directeur d'aménagement pour l'ensemble de la République. Voilà ce que je pouvais dire rapidement là-dessus.
Professeur, qu'est-ce qui cause ces érosions? Est-ce qu'on peut dire que c'est le fait des constructions anarchiques, le fait d'avoir construit sur un terrain inapproprié?
Mais tout à fait, parce qu'à ce moment-là, déjà, parce que nous avons cité les trois facteurs les plus importants, ça entre dans la catégorie que nous appelons l'utilisation de la terre. Donc, évidemment, le mode de l'utilisation des terres, comment les gens utilisent ces terres-là, ce sont effectivement ces constructions anarchiques, certainement, mais il y a des facteurs qui sont liés à l'aménagement, plutôt à la aux précipitations. Et là, je veux essayer peut-être de donner les quatre éléments clés par rapport à cela, parce que souvent, on a tendance de croire que l'érosion, c'est un système, c'est un mouvement, c'est un système tout à fait permanent et qui fait vivre la terre. C'est comme du sang, hein, c'est comme du sang dans le corps humain. Donc l'érosion, elle existe partout, elle existera, et donc il n'y a pas moyen d'endiguer, mais il y a moyen de minimiser, de diminuer les risques. Ça fait partie. S'il n'y avait pas d'érosion, il n'y aurait pas de sédimentation. Et s'il n'y a pas de sédimentation, il n'y aurait pas de roches, hein, qui se soient formées ou qui se formeraient éventuellement en dehors de types, donc, dans des roches sédimentaires, hein, j'ai dit. Donc, l'érosion doit être là. Mais il faut minimiser l'érosion, qu'on n'arrive pas dans des situations de ravinement, dans des situations complexes, comme on a maintenant à Kinshasa et au Kasaï et dans d'autres. Donc, et les pluies jouent un rôle important. Donc, le système climatique, s'il faut, donc le facteur climatique, le système climatique joue un rôle important. Mais ça va jusqu'au-delà aussi. Donc, ce qui veut dire que nous avons des précipitations qui sont cumulées, les pluies qui sont cumulées, depuis le dernier travail, par exemple, du sol, jusqu'à l'événement pluvieux considéré, déterminant pratiquement l'état structural de la surface du sol en question. Et vous avez le deuxième élément également qui conditionne, c'est toujours le pluie du jour. Donc, vous avez les pluies qui ont été cumulées pendant plusieurs temps, et puis vous avez le pluie de jour précédent, qui détermine l'état hydrique du sol et la date de l'événement. Donc, en fait, nous sommes dans l'incertitude de l'événement qui va se passer comme ravinement. C'est une combinaison de précipitations cumulées précédentes et puis aussi des pluies de jours précédents. Et vous avez le troisième catégorie des précipitations, ce qu'on appelle le pluie de pluie, donc les précipitations depuis le début du cycle hydrologique annuel. Donc, depuis le début de la saison, donc la saison de pluie, ça détermine également, dans certains contextes hydrologiques, l'état hydrique du bassin versant. Donc, le bassin versant va accumuler suffisamment d'eau pour finir maintenant de céder. Et enfin, on a des caractéristiques même de précipitation qui déterminent aussi les comportements hydrodynamiques du sol au cours de cette de cette pluie qui va finir par provoquer, par interaction avec tous les autres paramètres, l'événement en question que nous appelons l'érosion ou plutôt le ravinement, parce que beaucoup plus à Kinshasa, ce sont des ravinements et qui sont liés au type d'érosion concentrée. Voilà, donc ça c'est le facteur le plus important, mais qui est favorisé certainement, comme nous l'avons dit, avec la construction ou les constructions, qui sont les constructions anarchiques, et dans les sites où les gens ne pouvaient pas nécessairement construire. Et à ce moment-là, on est dans une situation où le bassin versant, et lorsqu'il cède, en tenant compte de quantité de précipitations qui font passer leur limite de plasticité en limite de liquidité, et le matériau arrive à couler, et en coulant, il cède, il laisse un ravin. Donc, c'est lié à la politique éventuellement d'aménagement du territoire.
Bien. Ingénieur Michel Oyumbu, la ville de Kinshasa, on a suivi, par exemple, à plus de 300 têtes d'érosion. Alors, d'après vous, quelles sont les stratégies efficaces des luttes contre ces érosions? Ingénieur Oyumbu. Ingénieur Michel Oyumbu, vous êtes là?
Son intervention est très capitale. Je l'ai suivi religieusement. Mais vous savez, monsieur, je dis, en matière de lutte anti-érosive, il n'y a que deux moyens que nous pouvons prendre en compte. Et dans le secteur du BTP, il y a ce qu'on appelle le moyen préventif, donc la prévention des érosions. Et il y a le deuxième aspect, c'est que dès que les érosions apparaissent, il faut absolument maintenant essayer de trouver des moyens pour pour les traiter. Donc il y a d'abord la prévention et puis le traitement. Donc comme vous le savez, dans tout le domaine, la prévention, elle est beaucoup moins coûteuse que le traitement. Alors en matière de prévention, qu'est-ce qu'on peut faire? La bonne prévention pour assurer une bonne lutte anti-érosive, c'est évidemment au moyen des aménagements. Quand on veut aménager une ville, on veut aménager une cité, on doit disposer d'un schéma d'aménagement ou d'un plan directeur d'aménagement de la ville. Et ce plan d'aménagement, évidemment, va pouvoir prendre en compte tous les espaces et essayer de voir quelles sont les zones exposées aux érosions, en connaissant par rapport au relief, par rapport à la nature du sol, et interdire les constructions dans ces zones-là. Il y a évidemment aussi les zones inondables, les zones agricoles, ainsi de suite. Donc, si on a un bon plan d'aménagement qui définit l'utilisation et l'affectation du sol en interdisant les constructions dans des sites exposés aux érosions, on a déjà fait de la prévention contre ces érosions. Ça, c'est au premier niveau. Maintenant, on arrive au traitement des érosions. Le deuxième aspect de la prévention, c'est évidemment... Maintenant, les zones qui ne sont pas très exposées aux érosions, il faut disposer d'un réseau de drainage des eaux. Un réseau qui va recueillir toutes les eaux pluviales et les drainer vers un exutoire naturel approprié. Donc, si on dispose d'un bon plan d'aménagement urbain et si on dispose d'un bon réseau de drainage, on aurait alors réduit le risque des érosions. Ça, c'est au niveau de la prévention. Mais au niveau du traitement maintenant, on peut peut-être prendre toutes les mesures de précaution, mais des érosions peuvent toujours apparaître. Au niveau du traitement, il faut absolument, dès qu'une érosion commence par se déclarer, faire une intervention rapide de manière à ce que le phénomène ne puisse pas dégénérer. Et les interventions sont de plusieurs sortes. Évidemment, on peut utiliser deux moyens, parce que quand vous avez une érosion, il y a un entraînement de matériaux par un facteur extérieur. Dans le cas des érosions pluviales, vous avez donc l'eau de pluie qui entraîne le sol. Donc, vous avez dans ce cas-là deux moyens pour agir. Ou soit, vous consolidez le sol pour que le sol ne soit pas entraîné. Mmh. Ou soit, vous évitez de laisser le sol en contact avec l'élément qui l'entraîne, avec l'eau, en construisant des ouvrages d'assainissement. Voilà les deux moyens que l'on peut maintenant traiter une érosion à partir du moment où l'érosion est déclarée. Donc, mais il faut insister, mais c'est aujourd'hui que la meilleure façon de lutter contre les érosions reste le moyen préventif. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas chez nous. Dans des zones collinaires, dans des zones où vous avez un sol pulvérulent, ce sont des zones où on doit tout faire pour que on ne puisse pas construire. Et dans les cas où on peut construire dans certaines de ces zones-là, il faut que ces différents endroits disposent d'un bon réseau de drainage. Le réseau de drainage, bien sûr, qui a été dimensionné en tenant compte des données de précipitation sur une période de temps définie, de manière à ce que ce réseau soit en mesure d'absorber les zones de précipitation pour ne pas que cela puisse causer des érosions.
Bien, merci à l'ingénieur Michel Oyumbu. On va accueillir les auditeurs. Vous voulez participer à cette émission? Nous parlons aujourd'hui de stratégie de lutte contre les érosions. Vous êtes dans votre ville, là où vous êtes, y a-t-il des érosions? Eh bien, appelez-nous pour nous dire comment on organise la lutte de ce côté-là. Vous voulez appeler? Eh bien, composez les 099-706-9941. Nous avons déjà en ligne trois auditeurs, Gallimard de Kananga, Roger Martial de Kinshasa et Jonas Ngoy de Kolwezi. Gallimard, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour. Dadi, bonjour, bonjour à notre invité du jour.
Comment, dites-nous, la ville de Kananga est aussi menacée par les érosions?
Oui, oui, vraiment, monsieur. Et je peux vous dire, au niveau de la commune d'Ndécha, c'est là que j'habite, sur l'avenue Kamwandu. Nous sommes vraiment entourés avec l'érosion. Alors, ce que nous voulons demander à notre invité, c'est quoi? Notre invité, il peut nous donner les stratégies qui peuvent mettre fin à ce système. Parce que sans stratégie que notre invité peut nous donner, nous ne pouvons pas faire quelque chose. On a essayé avec nos stratégies personnelles. On a essayé à planter des arbres. On a essayé à localiser de l'eau, mais ça ne voit pas. Mais l'État peut nous aider aussi, M. Dodi. Dans quel sens? Quand il y a le travail de l'État d'amélioration de la route, la canalisation de l'eau n'est pas bien fixée par le travailleur ou par les agents de l'État. Il y a des canalisations qu'on est en train de faire et quand on les fait, ce n'est pas en norme pour localiser de l'eau, là où l'eau peut aller atterrir ou arriver à la fin. Alors, ces derniers temps, nous menons des vies difficiles à Kananga, précisément dans la commune d'Ndécha. L'avenue que tout le monde plaire du jour au jour. Mais c'est une avenue-là qui amène les gens jusqu'au cimetière. Mais jusqu'aujourd'hui, M. Dodi, j'ai dit, nous avons lutté avec les jeunes du quartier pour améliorer la fonction de cette érosion qui nous entoure chaque jour. Il n'y a pas moyen, mais le gouvernement en place ne dit rien et le gouvernement ne s'intéresse pas à cela. Alors, comme aujourd'hui nous avons notre invité du jour, nous demandons à notre invité, il peut nous donner quelle stratégie que nous-mêmes, nous, la population d'Ndécha ou des quartiers Kamwandu, qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre fin à cette région qui peut nous détruire ou amener beaucoup de parcelles et les gens vont se retrouver en dehors, non pas de la maison, ils vont vivre comment? Tant que l'État congolais n'a pas intervenu à cela, monsieur Jody.
Merci Gallimard de Kananga. Vous êtes en déchant. Roger Marcel de Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur Jody, bonjour à tous les amis qui viennent de la radio de la Paix et bonjour au professeur.
Quelle est votre question par rapport à la lutte contre les érosions?
Merci beaucoup pour la thématique du jour qui est vraiment intéressante. Par rapport à la situation de la République démocratique qui traverse à travers des érosions quand même, je sais que toutes les provinces qui sont vraiment menacées avec des érosions, je dois quand même se marteler beaucoup pour la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, avec la ville de Kinshasa, si vous allez dans chaque commune, vous ne pouvez pas manquer quand même une érosion. Pour dire que non, la ville de Kinshasa, aujourd'hui, c'est comme si la ville n'est pas concernée. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a quand même une petite pluie, s'il y a quand même la pluie, vous allez voir quand même, la ville est vraiment bornée avec de l'eau. Si vous regardez même des caniveaux, il n'y a pas quand même des endroits où l'eau peut quand même circuler quand même. Et je pense quand même que si nos dirigeants quand même, lorsqu'on aborde quand même de tels sujets, on pouvait quand même avoir un peu de lumière qui sont même placés dans ce secteur. Est-ce que le pasteur, quand il donne quand même des explications, il parle quand même des choses quand même mieux.
Oui, mais, alors mais quelle, est la, quelle est la
quand
question
même, quand on donne quand même des arguments à tout moment. D'accord. Le dirigeant, c'est comme s'il ne coupe pas.
Alors, quelle est la question là, c'est quoi la question que vous adressez à l'invité?
Il y a quand même des bambous. Les bambous jouent quand même un grand rôle quand même au niveau des érosions. C'est pas quelque chose qui n'est pas quand même exploité. J'étais dans les quartiers Kindel où j'habite. Il y avait quand même une érosion qui était à ce niveau-là. On était quand même coupé même pour ne pas quand même avoir même de l'eau. Puisqu'aujourd'hui, si vous allez même à Kindel pour trouver quand même de l'eau sur les robinets, c'est un grand problème. C'est à cause des érosions. Je trouve quand même à ce niveau quand même, si on a quand même des dirigeants qui peuvent quand même avoir un bon programme quand même, qui peuvent quand même se donner quand même dans ce domaine-là. Je pense quand même que la vie d'écrit sur ça quand même.
Bien, merci. Merci Roger qui a, voilà, il préconise l'utilisation des bambous dans la lutte anti-érosive. Voilà, Jonas Ngoy de Colésie, bonjour. Il n'est plus là. On va les retrouver tout à l'heure. Professeur Jean-Pierre Djibou, à vous la parole. Professeur, vous êtes là?
Oui, je suis là, je vous entends, je vous écoute.
Voilà, le premier intervenant, Gallimard de Kananga, il est en déchat. Il dit qu'il y a des têtes d'érosion qui menacent les habitations là-bas. Ils ont tout fait, ils ont planté des arbres, mais ça ne marche toujours pas. Alors, quelle stratégie ils peuvent encore mettre en place au niveau de la population pour arriver à bout de cette érosion?
Merci beaucoup pour la question. Je crois l'ingénieur qui est intervenu avant a utilisé deux mots très intéressants, hein, et une très belle comparaison, la prévention et le traitement. Et je crois que ce qui est très intéressant, c'est de savoir que il est difficile et très difficile et coûteux de pouvoir résoudre le problème d'érosion une fois que cela s'est déclenché. Il est plus facile d'anticiper. Alors, pour anticiper, ça signifie on considère une ville, on considère la terre, une ville ou une entité X comme un corps. Chaque fois qu'il faut aller toujours voir et consulter le médecin pour faire l'évaluation de son état. Et la ville aussi, c'est de la même manière. Il faut savoir comment le faire. Et pour faire des préventions, on fait des méthodes, il y a des techniques et des méthodes. Ça, c'est vraiment l'outil fondamental, c'est de pouvoir modéliser l'érosion dans les milieux urbains. Il faut d'abord faire des mesures d'état. Il faut ensuite faire des mesures de flux. Donc, il faut arriver à pouvoir comprendre et comment se comporte le matière en suspension. Et pour faire tout cela, c'est pour un objectif de prévention. La prévention de quantifier le perte en terre annuelle pour une ville, par exemple. Quelle est la quantité que nous sommes en train de perdre? Deuxièmement, on doit estimer quels sont les risques érosifs à l'intérieur d'un bassin versant ou de bassins versants complexes qui constituent cette ville-là. Et troisièmement, on doit faire les calculs de perte de terre, hein, donc dans tous les petits bassins versants qui sont à l'intérieur de la ville, afin de déterminer la capacité de pouvoir produire et ou la proportion ou la quantité des terres qui doivent être érodées. Et ensuite, bien sûr, vous avez tout ce qui vient par après, les calculs d'infiltration et de vitesse moyenne des propagations de débit trop. Et voilà, vous avez la capacité des transports des sédiments, tout ça qui doivent être calculés et faire de modèles. On fait de modèles dans le sens de dire on doit prévenir. Et ces modèles sont utilisés dans le plan d'aménagement urbain, dans le plan directeur. À ce moment-là, on sait que voilà, il y a des zones qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas céder, qu'on ne peut pas lotir. Et lorsqu'on lotit ces zones, on provoque un phénomène naturel. Et le phénomène naturel, aujourd'hui, tel que les érosions qui sont provoquées dans beaucoup de pays ici, donc dans beaucoup de pays africains, et surtout chez nous, particulièrement à Kinshasa, ce sont des érosions qui sont aussi accentués par le réchauffement climatique. Donc le facteur le plus important dont nous avons parlé, qui est le facteur et le système climatique, le facteur climatique, le précipitation, ça devient encore un facteur beaucoup plus alourdissant de l'événement. Mais comment faire? Parce que les populations en elles-mêmes, à Kananga ou à Kinshasa ou ailleurs, ne peuvent pas lutter contre l'érosion. Hein, ça paraît comme un tout petit phénomène, mais c'est, vous imaginez, regardez les ampleurs que vous avez, que ce soit à Kin, que ce soit à Kananga, de ravins d'autant de mètres de profondeur, d'autant de mètres de largeur. Ça signifie que c'est un phénomène naturel très complexe. Maintenant, si il faut arriver à endiguer, il faut étudier les comportements, les caractéristiques, comme je l'ai dit, de sol en question.
Oui.
Et une fois on a déterminé les caractéristiques des sols, on sait savoir quels sont les lieux qu'il faut. C'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent la végétation. Eh bien, d'une manière générale, il y a certains qui disent facilement que le seul moyen le plus efficace, c'est quoi? C'est de favoriser les phénomènes d'infiltration pour limiter le ruissellement. Et ça, c'est efficace.
Par exemple, mais Roger, tout à l'heure, a parlé de l'utilisation des bambous. Est-ce que ça, c'est efficace dans la lutte anti-érosive?
Non. C'est vrai que c'est un savoir traditionnel qui avait une petite... on a tendance de croire que lorsqu'on peut utiliser les bambous, on va limiter. Je venais de parler tout de suite de matières en suspension. Ces matières en suspension qui sont dans des eaux de ruissellement, on a tendance de croire que ça va être stoppé et progressivement. C'est vrai, ce sont des petites quantités inutiles qui ne servent absolument à rien. Mais les problèmes, le vrai problème est lié au facteur de l'occupation du sol. Et par les populations ou par l'agriculture et aussi de l'agressivité climatique. C'est-à-dire les précipitations, le pluie. Donc, on n'a pas la possibilité, c'est qu'on peut faire, si on a suffisamment de moyens, on peut se dire, on va jouer sur la force de cinétique de gouttes de pluie, par exemple, ou le diamètre des gouttes. Mais on ne peut pas le faire, ce sont des phénomènes naturels. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de favoriser les phénomènes d'infiltration pour limiter les ruissellements. Et là, la végétation est le premier moyen le plus efficace. Mais il faut savoir aussi quelles sont les espèces qu'on doit utiliser, qui soit capable de nous permettre de pouvoir absorber, donc faciliter le phénomène d'infiltration de des eaux. Faut éviter que les eaux coulent, il faut que les eaux s'infiltrent. Et quand bien même les eaux s'infiltrent, lorsque le sol est complètement aussi en battance, ça peut provoquer également les glissements plutôt et les érosions des terrains.
D'accord. Donc, merci professeur. Ingénieur Michel Oyumbu, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'utilisation du vétiver, des bambous ou des sacs de sable, est-ce que tout cela peut contribuer efficacement à la lutte anti-érosive?
Ah non, monsieur Joubi, non, je ne crois pas. Ce sont des moyens naturels de lutte qui peuvent être efficaces au cas où l'érosion n'est pas déclarée complètement. Parce que si l'érosion est déclarée complètement et qu'il y a un phénomène de ravinement, ce qui est important, et l'ensemble de ces moyens-là que vous venez de citer ne sont pas efficaces. Mais il faut souligner une chose, M. Jody. Il faut dire que les moyens de lutte anti-érosive, quand on fait de la lutte, il faut se dire que ça coûte extrêmement cher, surtout quand on doit traiter des érosions, et que la population n'aura pas assez de moyens pour lutter contre l'érosion par elle-même. Non, il n'y a que l'État qui peut avoir beaucoup de moyens pour lutter contre les érosions. Bien sûr, l'État peut associer la population. L'État peut lutter, peut faire une lutte préventive, telle que je l'avais dit tantôt, en disponibilisant des schémas directeurs d'aménagement des villes qui tiennent compte des zones facilement érodables et en interdisant la construction sur ces différentes zones-là. Et quand on constate le phénomène, au début du phénomène, on peut y amener des moyens de lutte, des génies civils, accompagnés par la végétalisation du sol, bien sûr, pour soit consolider le sol à certains endroits, ou pour éviter que l'eau soit en contact avec les sols en construisant des ouvrages. Il est évident que l'infiltration est l'un des moyens les plus efficaces. Le professeur l'a souligné. Parce que si s'infiltre en grande quantité, cela veut dire qu'il n'y aura pas assez de volume d'eau qui va ruisseler. Cela veut dire qu'il n'y aura pas aussi assez de possibilités d'érosion. Donc les moyens de lutte sont des moyens coûteux et la prévention reste l'outil par excellence de lutte contre les érosions.
Bien, la prévention reste le moyen le plus efficace de lutte contre les érosions. On va accueillir Wesley Luboya de Kananga. Bonjour Wesley.
Et Daniel Nkachama, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Wesley?
Merci beaucoup, Jody. Je pense que mes interventions sur la Radio de la Paix, c'est en qualité d'un environnementaliste. Nous, ici à Kananga, on a répertorié beaucoup de têtes d'érosion. Mais la cause principale, c'est d'abord la cause anthropique. C'est l'homme qui est à la base de la prolifération de cette érosion dans nos milieux où nous vivons. Raison pour laquelle aujourd'hui, si nous subissons les conséquences telles que écroulement des maisons, mort d'hommes, tout ça, c'est parce que l'urbanisation n'est pas respectée conformément au respect de l'environnement. Parce que vous savez, lorsque l'homme exerce beaucoup de pression sur l'environnement, et ce qu'il a comme conséquence, peut-être, c'est récolter ce que nous récoltons aujourd'hui. Je dis ici à Kananga, nous avons répertorié plus de 59 têtes d'érosion qui envahissent la ville de Kananga.
59 et têtes d'érosion.
En termes d'érosion, oui, en termes d'érosion aujourd'hui. Mmh. Et le gouvernement provincial a pu cibler ne plus que 6 ou 5 têtes d'érosion qui ont menacé d'abord la commune de Kananga, la commune de Ndesha et la commune de Nganza. Mais chose grave, nous sommes dans un environnement où les conditions vitales ne sont pas respectées parce que la construction anarchique pose problème et les lotissements, on peut dire anodins, aussi pose problème. Maintenant, le problème que je voudrais poser à notre invité, dans la mesure du possible, s'il faille aujourd'hui respecter, parce que dans le principe de l'environnement, on nous dit chaque retrait nécessite une restitution. Aujourd'hui, les autorités que nous avons ici à Kananga ne respectent pas les conditions environnementales. Mais s'il faille aujourd'hui construire anarchiquement, comment restituer, parce que les zones de pluie qui se dressent elles-mêmes des voies en termes de ruissellement pose problème d'inondation, pose problème de mort d'hommes. Comment on peut restituer déjà dans ces cas pareils? Et parce que on ne respecte pas ce principe de restitution. On ne respecte pas ça ici à Kananga. Ici, on vise les intérêts. Quand vous êtes déjà gouverneur, quand vous êtes ministre de l'Environnement, vous êtes ministre, vous visez les intérêts personnels et individuels. Et les conséquences ne retombent pas juste les autorités-là, mais ça retombe sur les individus ou la population. Comment peut-on restituer déjà dans un cas pareil, au cas où le principe de la restitution...
Bien, Wesley, vous dites que là-bas à Kananga, vous avez autour de 56 têtes d'érosion. Est-ce qu'il y a déjà eu des travaux menés par le gouvernement provincial pour lutter contre ces têtes d'érosion?
Permettez-moi de vous dire que en commençant, d'abord, au centre-ville, nous sommes dans le quartier Kamulumba, en face de l'école Lumière des Nations. Les ravins a pu, je vous dis, a ravagé beaucoup de parcelles de gens. La fois passée, je vous ai dit que nous avons pleuré plus d'une famille à cause de ces mauvais lotissements et de la mauvaise construction.
D'accord.
Tout ça, ce sont les autorités qui sont à la base des mauvais lotissements parce qu'ils visent leurs intérêts.
Bien, alors la question est de savoir s'il faut détruire les constructions anarchiques, c'est ça?
Oui. Oui, ma question était de savoir parce que ici, nous avons le principe dans l'environnement qui dit quoi? À chaque restitution nécessite une à chaque retrait nécessite une restitution. Les autorités que nous avons peut-être, je ne sais pas si elles ont la conscience de toutes ces matières. Ils lotissent à mal les terrains, on construit anarchiquement. Donc, déjà, l'environnement n'est pas respecté.
Mais d'accord.
À ce moment,
merci.
Comment peut-on pallier à cette difficulté comme problème que nous avons ici à Kananga? Merci beaucoup, c'est Wesley Louboya depuis la ville de Kananga.
Merci, Wesley Louboya. Nous avons Patty en ligne depuis Bandundouville. Bonjour, Patty.
Oui, bonjour, monsieur. Je dis Daniel Kachana et bonjour à tous les Okapi services.
Bien, Patty, là-bas à Bandundouville, comment se présente la situation? La ville est menacée aussi par des têtes d'érosion.
Il y a un quartier ici, qu'on appelle Voie Rouge. Ce quartier-là se trouve entre le boulevard et l'avenue Louis.
Oui.
Ce sont les grandes avenues principales. Mais si aujourd'hui, je vous dis, ce quartier-là n'a plus d'avenir. Toutes les avenues sont absorbées par les têtes des
érosions. L'érosion.
Je vous dis, ce quartier-là, même les brouettes ici, ils ne passent pas. Il restait seulement une avenue, l'avenue India. C'est là où il y avait quand même les brouettes qui pouvaient passer, les vélos pouvaient passer. Mais quand nous parlons avec vous ici, s'il pleut, par exemple, aujourd'hui, le soir, dans une semaine, même India, les brouettes ne peuvent plus passer. Je ne sais pas. Les autorités voient ou ils ne voient pas. Maintenant, ce que nous remarquons qui est à la base de toutes ces choses-là, c'est le morcellement aussi des parcelles. Hein. Vous voyez même dans l'ancien temps, quand les Belges étaient encore ici dans notre pays, de la manière dont les Belges construisaient, ils construisaient, vous trouvez une maison ici, on laisse même quelque chose de 15 mètres.
Oui,
20 mètres.
Oui, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, les gens construisent n'importe comment.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons des parcelles qu'on coupe comme des cabris. Vous trouvez une parcelle, après deux ans, vous trouvez une argent morcelé. On coupe des parcelles comme si c'était
voilà. Des cabris. Comme si c'était des cabris. Voilà, d'accord. Merci beaucoup.
Comme si c'était des cabris.
Merci d'avoir appelé, Patty. Oui, d'accord. Merci. Professeur Njibou, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout cela?
Eh bien, merci beaucoup. J'ai rigolé un peu, mais c'est intéressant cette expression utilisée par notre parlant que c'est fait comme du cabri. C'est justement un peu un signe de lamentation de ras-le-bol. Hein. Et ce qui est vrai est que lorsqu'on construit une ville, on doit avoir le plan d'aménagement directeur. Et on doit savoir quelles sont les parties de la ville qui doivent être aménagées, qui doit avoir des arbres, qui doit être reboisé, qui doit être de parcs, qui doit avoir de maisons. Est-ce que ce sont des maisons en étage ou ce ne sont pas des maisons en étage? Est-ce que ce sont de... Donc, tout ça est lié par des études de faisabilité qui vont faire les études de mécanique des sols, les études hydrologiques, les études géomorphologiques, donc sociologiques, et tout entre en... Et lorsque vous avez des plans, c'est pas que les autorités ont besoin de savoir tout ça, mais ils ont des services. Hein. Elles ont des services qui sont censés connaître les services de l'État et qui peuvent leur dire là il faut ceci, là il faut pas cela. Malheureusement, ce sont des services qui ne sont pas aussi généralement contactés, même si c'est contacté, mais ça doit réfléchir dans le sens de l'autorité elle-même, ce qu'elle voudrait que ça soit fait. Il est délicat de résoudre un problème, et je le répète une fois, il est délicat et très difficile de résoudre un problème d'érosion. Ça serait mensonge de dire cela parce que les gens vont croire que nous allons résoudre le problème d'érosion.
Donc on n'arrivera jamais à éliminer l'érosion, oui.
Tout à fait. D'une manière générale, la bonne manière de le faire, c'est de jouer sur deux éléments essentiels. Ça signifie, c'est de pouvoir jouer sur le ruissellement. Et si on doit jouer sur le ruissellement, c'est-à-dire on doit favoriser l'infiltration, ce qui veut dire qu'il faut le couvert végétal. Alors, il faut tenir compte des sols. Je vois les sols de Kinshasa et ailleurs, ce sont Bandundu, que ce soit Kananga, on a des sols sablo-argileux et des sols sablonneux, par exemple. Alors, et vous avez le deuxième élément sur lequel on doit jouer, c'est sur la précipitation. S'il faut encore diminuer l'énergie des précipitations, il faut également qu'il y ait le couvert végétal. Mais de quelle manière, si vous avez deux villes, à chaque fois qu'on lotit, on construit, et la partie, la parcelle est bétonnée, il n'y a plus de ruissellement. C'est la route qui fait le ruissellement, qui fait le rôle de pouvoir récupérer les eaux de toute la ville, une grande ville de 15 millions comme Kinshasa, pour ramener sur, donc en fonction de bassin versant, vers le lit de rivière. Malheureusement, parfois, ça retrouve que au niveau où ça devait continuer la pente, il y a des maisons qui sont construites, il y a des bâtiments. Et l'eau n'a pas tendance d'y aller. Alors, ça cherche quoi faire. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est de pouvoir délocaliser les personnes, refaire le travail d'urbanisation. Il faut revoir notre urbanisation aujourd'hui. Il faut qu'on réfléchisse sur une urbanisation, sur une ville durable. Comment allons-nous construire des villes durables?
Oui.
Nous devons réfléchir pour la construction des villes durables en aménageant les villes qui existent déjà. Mais délocaliser les personnes, ça devient à ce moment-là un autre aspect qui entre dans une logique politique. Vous voyez ça? Alors, c'est maintenant, il faudrait que les gens soient aussi informés et sensibilisés sur les risques qu'ils courent. Et qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas nécessairement aller demander une maison ou une parcelle à l'endroit X, tout en sachant que l'endroit est une zone à risque. Quelles sont les zones à risque? Si vous demandez à ceux qui travaillent ou qui ont d'administration, quelles sont vraiment les zones à risque de nos villes? Peut-être qu'ils n'en connaissent même pas, ces autorités-là. Mais tout simplement, on est toujours surpris par l'événement et on veut résoudre l'événement en amenant autant de tonnes de ciment. N'oublions pas que bien qu'on va mettre des ciments, qu'on va mettre de béton, n'oublions pas que l'eau, c'est de l'énergie. S'ils ne le font pas aujourd'hui, dans 10-15 ans, elle finira toujours par détruire le béton. Donc l'érosion, c'est l'eau, en fait. C'est, et l'agressivité de l'eau, l'agressivité du système, donc du climat également. Or, le réchauffement climatique joue un rôle important. On peut mettre de gabions, on peut venir faire des briquettes anti-érosives, on peut venir
construire
des sacs de sable, on n'aurait rien fait parce que ça va continuer et ça va changer de direction. Vous pouvez mettre ça dans le nord-sud, mais ça prendra sud-ouest et vous verrez là où vous avez mis des sacs ou de constructions en béton ou de moellons. Et le moellon, c'est quoi? C'est une roche. L'érosion est capable, donc l'eau de pluie désagrège, décompose même la roche. D'ailleurs, c'est la décomposition de la roche est liée à ça par des processus hydrolyse, par exemple, et d'oxydation, ça peut être des processus chimiques, éventuellement, et c'est l'eau, l'hydrolyse. Donc l'eau joue et à la fois et comme agent et comme transporteur des éléments qui ont été mis en suspension, qui sont des éléments ou des sédiments.
Bien,
donc,
professeur,
ça finira toujours par se détruire.
Voilà. On va accueillir Ismaël de Lubumbashi. Nous parlons aujourd'hui de la lutte anti-érosive. Quelles sont les bonnes stratégies? Ismaël, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, Daniel Kachama. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question? Lubumbashi aussi connaît ce problème d'érosion?
Ah, bon. Ici, nous avons un sol argileux. Les érosions ne sont pas à la mode. Mais plutôt que les comportements vis-à-vis de la population, c'est ça ce qui crée souvent des érosions. Puisque de l'eau ne sont pas canalisées, ou l'eau sont canalisées, ou à défaut quand on construit des routes par les Chinois et consorts, ils se fait dans des endroits où on arrive avec un canal et on les laisse à un espace vide et de l'eau se déverse dans des endroits où une précipitation forte arrive au coin ou au fond d'une rivière. Ça provoque une érosion. Mais la question que j'adresse à l'invité est celle-ci. Par rapport à la distribution du terrain et par rapport au lotissement, qu'est-ce que l'État peut faire? Parce que nous constatons que, à des fois, on a construit une avenue qui comptait 10 mètres. Au fur et à mesure, cette avenue arrive à 3 ou 4 mètres. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre que la population respecte les limites de routes pour des espaces publics? Et en plus aussi, quels sont le regard des experts congolais quand on construit, par exemple, ou quand on attribue un terrain pour la construction? Ce qui nuit, c'est le comportement congolais. Si jette votre flacon dans la route,
au fur et à mesure que vous faites ça, des loups n'est pas quelque chose où on peut éduquer facilement. C'est ce qui est à la base. Mais par rapport aussi au déboisement, quels sont les mécanismes que l'État prenne pourvu qu'on puisse aussi maîtriser certaines situations? Parce que vous allez, parce que j'ai été dans la plupart des provinces, telles que Kassai Central, Kassai Oriental, Kassai, Kinshasa. Mais je pense que dans la plupart des endroits, il y avait des arbres dont le Belge plantait. Mais pourquoi aujourd'hui l'État congolais ne peut pas se donner, ou les chargés de l'environnement ne peut pas se donner aussi les lits
de faire le reboisement. D'accord, merci. De faire le reboisement, bien sûr. Merci Ismaël. On va donner la parole à Thomas de Bounia. Bonjour Thomas.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour aux invités.
Quelle est votre question Thomas?
D'après déjà, j'ai des questions à poser aux invités. Comment contrôler l'érosion en milieu urbain? Comment on peut arriver à contrôler ça? Comme maintenant nous faisons face à ces fléaux-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut contrôler l'érosion en milieu urbain? Et la deuxième question, quels sont les facteurs qui contribuent à l'érosion du sol en milieu urbain? C'est ça ma préoccupation, je vous remercie.
Bien, comment contrôler, arriver à maîtriser l'érosion et quels sont les facteurs favorisants? Ingénieur Michel Ouyumbu.
Comment contrôler l'érosion en milieu urbain? Il faut tout simplement disposer de politiques cohérentes en matière d'aménagement des villes, en disposant de plans d'aménagement et en disposant aussi des suivis de ces différents plans d'aménagement. Si on y parvient, on contrôlerait alors en amont l'apparition de têtes d'érosion. Et comment faire? Quels sont les facteurs qui contribuent? Évidemment, on l'a déjà dit le long de cette émission. Nous savons que la plupart des régions urbaines ont pour cause l'homme. Alors, vous allez vous rendre compte que dans certaines zones collinaires, des zones non édificables, ce sont des zones où les gens s'y installent. Pourquoi ils s'installent dans ces zones-là? Mais parce qu'en amont, nous avons un souci de logement. Et nous avons un véritable déficit en matière de logement qui fait que depuis une bonne dizaine d'années, nous ne disposons pas de politique de logement, de construction ou de production des unités de logement abordables. Et cela fait que les gens se débrouillent. Quand les gens se débrouillent, et c'est au risque et péril de leur vie, ils s'installent n'importe où. Donc, tout cela pourra être fait si, évidemment, en amont, on peut disposer de bonnes politiques d'aménagement urbain et bonnes politiques de production de logement. Et ensuite, on assure un mécanisme de suivi et des suivis d'exécution de ces politiques-là. Voilà, selon moi, ce qu'on peut faire pour réduire ces phénomènes en milieu urbain.
Bien. Professeur Ndjibou.
Ok, merci beaucoup. Je crois que mon prédécesseur a souligné l'essentiel. Et le milieu urbain, chez nous, pour protéger contre les érosions, il faut refaire le plan d'aménagement urbain. Alors, ça, c'est dur à faire. Et c'est dur aussi à être compris. Parce que personne ne comprend que le phénomène d'érosion, tel que nous les avons à Kinshasa, ce sont des phénomènes, on l'a souligné, exactement anthropiques, une combinaison entre le phénomène anthropique et la gravité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir constituer un plan d'aménagement, élaborer un plan d'aménagement qui soit un plan agréable, qui soit un plan qui respecte l'environnement. Je reviens encore sur la notion de repenser un nouveau modèle de ville durable. Les villes que nous avons aujourd'hui sont devenues, on dirait, de grands villages, de grandes cités, où nous ne savons pas clairement ce qu'on peut appeler une ville durable, ou c'est quand est-ce qu'on peut faire la différence entre une ville et un milieu urbain. Et le plan d'aménagement va permettre à ce qu'on ait des zones, on délimite les zones de risque, et si une fois les zones de risque ont été délimitées, il faut délocaliser les personnes qui sont sur ces zones de risque, éventuellement, et il faut revégétaliser les zones, aménager ces zones-là. Et puis le revégétaliser. Et il faut qu'on détermine également comment on doit faire les canalisations comment on doit drainer les eaux de la ville. Une ville qui s'agrandit, comment on fait la cartographie souterraine et superficielle des canalisations? Est-ce que les eaux qui sont canalisées sur le plan superficiel, au niveau superficiel, finissent réellement dans le cours d'eau qui sillonne la ville, ou également ces eaux-là, également les eaux souterraines, donc la cartographie souterraine, donc des canalisations, ces eaux finissent également dans un bassin qui les collecte pour les évacuer dans des cours d'eau. Ou ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ça signifie que quelque part ces eaux vont finir par être bloquées, une fois les canalisations ne sont pas correctes, et les caractéristiques physico-chimiques des sols finissent par être modifiées, à l'endroit où l'eau va rester en permanence, et il finit de se créer ou de se produire un phénomène d'éboulement ou un phénomène d'érosion et qui va s'installer. Donc, s'il faut une canalisation, tout ça, ça doit entrer dans la planification et dans l'urbanisation. Et il faut également arriver à mettre, à créer ce qu'on appelle des zones tampons artificielles, et qui facilitent à ce que les eaux et les matières en suspension soient bloquées et stabilisées et stockées. Donc, on stocke le sol, on favorise l'infiltration et la quantité d'eau est aussi diminuée. Cette quantité d'eau peut également être réutilisée. Dans une ville durable, on réutilise ces quantités d'eau qui sont des eaux de ruissellement. On peut installer des haies, tout comme on peut freiner les écoulements en faisant des rétentions de sol, comme je l'ai dit, et la végétation éventuellement. Mais ça, ce sont des solutions qui ne peuvent être possibles que si le plan d'aménagement a été bien restructuré et a été bien élaboré. Mais pour l'ensemble des villes chez nous, il faut refaire. Il y a des endroits qui ne peuvent pas être habités. Je prends un exemple ici à Lubumbashi. Nous avons la rivière Lubumbashi, qui c'est une rivière qui donne le nom à la ville. Et c'est un patrimoine. Mais c'est une rivière qui est en train d'être ensablée, asséchée, tout simplement parce que le lit, cette rivière qui faisait la collecte, parce que c'est la ville est pratiquement dans un géocinclinal, vous avez la Roachie et puis vous avez le Momokwan, c'est pratiquement dans un géocinclinal, où vous avez la rivière qui doit collecter toutes les matières en suspension éventuellement, mais malheureusement, vous avez le lit et vous avez des gens qui continuent même à acheter progressivement de parties des rivières et essayer de faire de parcelles. Mais notre ami a donné la main, dit que font les intellectuels? Mais les intellectuels vont continuer à crier. Nous crions comme des prophètes dans le désert. Bien. Nous disons ce que nous voyons, d'accord. Mais il faudrait que les gens arrivent, ceux qui ont des décisions, arrivent nécessairement à pouvoir prendre des décisions qui soient adéquates.
Bien, j'ai retenu que la meilleure lutte contre les érosions, c'est la prévention. Vous l'avez dit au courant de cette émission, parce que si les têtes d'érosion se déclarent, c'est vraiment très difficile d'arriver à en finir avec à maîtriser ces érosions-là. Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Gibou, expert sur les questions de l'environnement et risques naturels. Nous disons également merci à l'ingénieur Michel Ouyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP de la République démocratique du Congo. Bonne journée et à la prochaine.
Merci.